Les nombres de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde! Bah voilà, la musique elle est peut-être un petit peu entraînante, juste pour nous donner beaucoup de courage, parce qu'avec ce froid, franchement, on est avec Clémentine et Jeannot pour parler des livres, donc heureusement qu'il fait bon dans le studio de Canal B. Salut!
Salut!
Ça va?
Ben très oui! Bien.
Clémentine, une première pour toi?
Oui, première, très contente d'être ici.
Nous aussi, on est très contents de te recevoir pour parler donc de livres. Qu'est-ce que tu nous as amené?
Alors moi, j'ai amené Nos puissantes amitiés de Alice Rebaud, des éditions La Découverte, paru en janvier 2024. Alors c'est une copine qui m'en a parlé,
ouais.
et du coup, on a décidé de le lire ensemble. Et donc du coup, c'était aussi un peu un petit challenge de lire ça toutes les deux, donc c'était très chouette.
Comme quand on va au cinéma avec quelqu'un et après on débrief du film.
Exactement, c'est de débattre, on débattait à chaque chapitre. Donc
trop bien,
très chouette.
Je vais vous parler en toute fin d'émission de Louvre en juillet, qui est le livre de Gabrielle Filteau-Chiba, une autrice canadienne que j'adore, parue aux éditions des Paysages cette année, donc dans la collection Animal, elle est absolument éblouissante. On va laisser la parole à Jeannot. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui?
Alors, je vous ai rapporté un livre que peu de gens connaissent, ce qui s'appelle Ringo Levio, écrit par Emmett Grogan. C'est paru en 1973 aux États-Unis et en 98 en France. C'est une autobiographie, autobiographie de Emmett Grogan.
Pourquoi elle est assez méconnue alors qu'il est en France depuis 98?
Mais oui, c'est bizarre. Peu de gens connaissent ce livre et Emmett Grogan. Il n'y a pas eu beaucoup de presse là-dessus. C'est un type qui est d'origine irlandaise, qui est né à New York. Il est né en 42 à Brooklyn. Le livre commence par un jeu d'enfants, adolescents. C'est un peu le jeu apparenté à chat. Il y a deux équipes à nombre égal et les gens se font capturer ou pas et ils atterrissent dans une prison. Chaque équipe a une prison. Il n'y a pas de terrain délimité. Tout est permis, ce qui fait qu'ils atterrissent souvent sur les toits de New York pour ne pas se faire prendre. Alors risques et périls, parce que certains font le grand plongeon des toits et tombent et meurent. Et donc c'est un jeu très dangereux. Et donc Emmett Grogan, apparemment il aime bien l'altitude. C'est un jeune garçon qui est très beau, qui est très séduisant. Il a des jeunes conquêtes féminines. Et il s'arrange pour que ces conquêtes-là soient des jeunes filles de bonne famille. Et il se débrouille pour visiter, c'est un mont-en-l'air, ce qu'on appelle un mont-en-l'air, c'est un cambrioleur. Il visite les appartements des parents de ses petites copines quand elles sont absentes. Ce qui fait qu'un jour, il part en Europe et il a beaucoup d'argent liquide. Quand il part en Europe, il arrive à Paris pendant la guerre d'Algérie, il va en Italie, à Cinecittà, il vit à Rome un moment. Et il s'engage même dans l'IRA. En Irlande. C'est un garçon qui commence l'héroïne très très jeune.
Mais on est en train de parler d'un récit, c'est pas un roman en fait.
Non, c'est une autobiographie, oui.
Ah, okay.
Il raconte sa vie. Il n'a fait que deux livres, hein. Il y a Ringo Levio, il a écrit La Dernière Manche, c'est un polar qu'il a écrit ensuite. Il est décédé assez jeune. Du coup, il était en Irlande, il revient aux États-Unis et il arrive à Haight Ashbury, à San Francisco. Et il invente un groupe de gens qui s'appelle les Diggers. C'est un peu précurseur des Restaurants du Cœur parce qu'il se débrouille pour chiner sur les marchés, dans les abattoirs, de la viande, des légumes. Éventuellement, il vole s'il n'arrive pas à avoir ce qu'il faut. Et il fait de la soupe et il fait des plats pour les gens qui sont nécessiteux, et notamment beaucoup de hippies en ce temps-là, qui sont à San Francisco, qui savent plus, qui ont oublié qu'il fallait manger, donc il les nourrit.
C'est un type étonnant, en fait.
C'est un type étonnant, oui.
D'un côté, il y va carrément faire le voleur et tout, mais d'un autre côté, il a un gros cœur et il en partage avec les gens.
Oui, il est assez engagé politiquement. D'ailleurs, Bob Dylan a écrit Mr. Tambourine Man, c'est en son honneur. Et ensuite, il retourne à New York. Il fréquente pas mal de gens assez connus dans la Beat Generation. Il est à New York et on ne sait pas pourquoi, il en a marre de voir des hippies et autres dans les rues.
On est plutôt dans les années 60 à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ouais. Et il retourne à New York et il se met en tête de nettoyer un peu les rues. Et là, il s'acoquine pas mal avec les Hells Angels. Il y a pas mal de violence. Les rues assez troublées. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis en tête de nettoyer ces rues-là. Mais c'est quand même le type qui inventa les diggers, une certaine forme de resto du cœur avant Coluche.
Et sinon, son rapport avec l'héroïne, il a réussi à laisser tomber cette addiction.
Il a laissé tomber par moment. Par contre, il n'a jamais complètement laissé tomber parce que la preuve, il est un jour, il rentre dans le métro et il est retrouvé mort dans le métro.
Ah ouais, carrément, ouais. C'est comme ça qu'il est mort.
Voilà, il a été retrouvé mort dans le métro le 6 avril 78. Alors certains disent que c'est peut-être pas une mort, son overdose aura été peut-être volontairement occasionnée par des tierces personnes parce qu'il commençait à vraiment ennuyer les autorités parce qu'il avait pris beaucoup de popularité et de pouvoir grâce à ses actions caritatives. Et il s'engageait pas mal politiquement, un peu à tort et à travers, ça dérangeait pas mal. Et donc il est mort comme ça, de manière assez dramatique, dans le métro.
Donc il a eu le temps d'écrire deux livres avant de mourir. Ouais. Et qu'est-ce que fait que tu as rencontré ce livre, toi, Jean-Marc ?
Mais j'ai rencontré ce livre par hasard en lisant des chroniques littéraires. Et je me suis intéressé à ça, je l'ai lu, ça m'a beaucoup plu. Il y a des amis qui m'en ont parlé en ce temps-là, dans les années 90, début 2000. Et tous ceux qui l'ont lu ont été complètement captivés, charmés par ce livre. Mais il est très peu connu.
Et l'écriture, elle est assez fluide, assez rythmée. Comment ça se passe ?
Ah oui, c'est une jolie écriture. Oui, c'est très rythmé. C'est pas très expert en traduction, mais ouais, c'est très bien fait. C'est rythmé parce que c'est des aventures tout le temps. Hein. C'est un type qui a eu une vie très, très, très remplie. Et c'est des années hippies. C'est quand même des années à San Francisco, notamment, qui sont assez, assez passionnantes.
Est-ce qu'il y a une scène musicale aussi qui est un peu l'ADN dans le livre ?
Alors, il aura été mêlé, soi-disant, mais ça, est de près ou de loin, au fameux concert de Altamont. C'est un concert qui a été fait, il n'y avait pas la place pour faire sur un terrain où ça avait été prévu, ça a été déplacé, et c'est à ce fameux concert qu'il y a eu un mort, beaucoup de violence, et un mort au concert pendant que les Rolling Stones jouaient.
D'accord.
Il était là, donc c'est cette fameuse époque là, avec tous ces groupes, là, et notamment il y avait beaucoup aussi la Beat Generation, quoi, avec Boros, tous ces gens-là autour de lui. Quoi. Il fréquentait beaucoup ces gens-là, et c'est pour ça sans doute qu'il a écrit, parce que ce n'était pas un écrivain au départ, et son autobiographie est bien réussie, c'est un bon écrivain.
D'ailleurs, tu voulais nous lire deux, trois lignes de,
ouais, je peux vous dire,
de la quatrième de couve.
Voilà, la fin de la quatrième de couve. Emmett Grogan, c'est surtout un conteur né, un écrivain de grand talent, l'auteur d'une extraordinaire autobiographie aussi profonde qu'explosive. Plus que tout autre, Ringo Levio symbolise la folie et la générosité des années 60, un livre qui, 30 ans après mai 68, reste aussi jeune que la Révolution. 10 ans plus tard, le 1er avril 78, Emmett Grogan descendit au terminus de Coney Island. On découvrit son corps dans une rame de métro, victime d'une overdose. Donc ils disent... les dates sont à remettre dans le contexte. Emmett Grogan, c'est pour beaucoup un mythe. C'est l'homme invisible parce qu'il l'a voulu, parce qu'il aime par-dessus tout l'anonymat qui seul permet d'accomplir réellement quelque chose pour le peuple. Et c'est pour ça un peu que ça n'a pas été très connu, parce qu'il est resté tout le temps très, très discret. Il faisait des actions comme ça, mais qui étaient d'envergure, mais il n'apparaissait pas. Il était tout le temps en arrière-plan. Il se tenait en arrière-plan volontairement à chaque fois.
Et ça ne s'en vante pas, tu as choisi une musique de Little Bob History qui s'appelle Ringo Levio.
Little Bob, oui, c'est un vieil artiste qu'on aime beaucoup, originaire du Havre, et qui chante ce morceau Ringo Levio. Donc je suppose que c'est en honneur à ce livre qui est connu de toute cette génération-là.
Listen up, sons of bitches! Little Bob's gonna tell you a story! 1, 2, 3, Ringo Levio!
Thank you.
Et maintenant, on va passer peut-être deux salles, deux ambiances complètement différentes avec toi, Clémentine, qui va aussi nous parler de ton coup de cœur littéraire aujourd'hui. C'est quoi déjà le livre ?
Nos puissantes amitiés. Déjà, le titre envoie.
Ça en jette, ouais.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, en fait, c'est un livre qui re-questionne la place de l'amitié dans nos vies. En fait, ça explique que quand on est enfant, on a plein d'amis. Et en fait, avec le temps, on a de moins en moins d'amitié. Et la place de l'amitié est de plus en plus mise de côté parce que bah, y a le rapport au couple, le rapport à la famille. Et donc, au final, ça traite de toutes ces thématiques-là, mais plutôt avec beaucoup de joie et beaucoup de positif. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que c'est traité avec... en fait, l'idée, c'est que c'est un essai et que en fait, l'autrice, elle a travaillé par chapitre. Donc, on a un chapitre qui est, par exemple, un genre d'amitié. Par exemple, on a piraté le modèle du couple. Et dans chaque chapitre, on a des témoignages sur des gens qui vivent d'une manière peut-être un peu différemment. Par exemple, faire famille avec ses amis et pas faire famille avec un homme qu'on a choisi, par exemple. Ça remet tout en question notre vision finalement classique de la vie, de la société, de le couple hétérosexuel, etc. Ça ne dit pas, c'est interdit les couples hétérosexuels, mais ça dit y a autre chose et donc venez découvrir ce qui existe. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est que ça amène beaucoup de... Comment dire ? Ça ramène plein de sujets hyper intéressants, mais très faciles à lire. Et donc au final, on ne se sent pas perdu par des mots très complexes et on a en même temps des témoignages de gens qu'on aimerait rencontrer finalement au quotidien.
Pour tester ?
Oui, pour tester et même rencontrer ces gens qui en fait ont décidé de faire des choix différents. Par exemple, il y avait deux jeunes femmes qui ont décidé de vivre à deux. Et alors elles sont meilleures copines et elles ont décidé de se paxer. Et donc ça, c'est un modèle. Et en fait, elles se disent pas résignées à être en couple, mais elles veulent mettre au centre de leur vie leur amitié plutôt que leur couple.
D'accord, donc la dimension sexuelle, elle n'est pas au cœur du livre, c'est vraiment...
On est vraiment au cœur de l'amitié, de se dire, ça parle aussi par exemple de ruptures amicales, qui sont finalement peut-être plus fortes que des ruptures amoureuses en fait. Et donc ça parle de l'amitié, soit au sens, on a décidé de vivre ensemble, et donc pas forcément de vivre avec quelqu'un dont on est amoureux et avec qui on a des rapports. Ça parle de faire des enfants, par exemple, avec son meilleur ami plutôt qu'avec son conjoint. Donc tout ça fait que tous ces nouveaux modèles re-questionnent, et en fait, comme il n'y a pas de règles, et bien les règles se créent.
Mais pourquoi est-ce que cet ouvrage t'a intéressé, Clémentine ?
Eh bien, parce que je me disais finalement qu'au final, avec le temps, je commence à vieillir. Et je trouve que j'ai plus assez de temps de voir mes amis. Et donc, j'ai une copine qui lit énormément et qui m'avait conseillé ce livre. Et on s'est dit qu'on allait lire ce livre ensemble. Et en fait, il y a plein de choses qui sont actées finalement dans la société où on ne se rend pas compte. Par exemple, la tendresse. J'ai des copines qui n'ont pas de copains, par exemple. Et en fait, elles disaient qu'elles n'ont plus de rapport physique. Entre copains, on se fait pas de câlins, etc. Alors qu'en fait, on fait que des câlins avec notre conjoint, par exemple. Et donc du coup, il y avait plein de sujets comme ça. Il y avait aussi, par exemple, vieillir ensemble, où il y avait des couples qui disaient que finalement, ça les questionne de vivre juste à deux, parce que s'ils perdent leur conjoint, au final, ils n'ont plus personne. Et donc, il y a des modèles comme ça qui se créent, où des couples décident de vivre à six. Et de se dire, on va essayer un nouveau mode de vie. Et en même temps, je trouvais ça hyper intéressant parce que je me disais finalement, quand on est en couple avec quelqu'un, on se dit toujours, on repose tout sur une seule et même personne. Et en fait, dans ce livre, c'est pas du tout l'idée, c'est de se dire, chaque amitié m'apporte quelque chose et comment je nourris mes amitiés. Donc c'est ça qui m'a particulièrement plu. Ça m'a un peu rappelé ce qu'expliquait Victoire Tuaillon dans Le cœur sur la table. Qui a un podcast et qui explique aussi bien ce rapport à l'amour, mais qui est plus centré sur l'amour, alors que là, on est vraiment centré sur l'amitié. Et on est centré sur des modèles où c'est des gens qui ne sont pas résignés à être en couple, mais c'est des gens qui sont résignés à reprendre possession de leurs amitiés et donc de se dire, l'amitié, finalement, ça me rend très heureux.
Le livre est paru aux éditions La Découverte en 2024. Rappelle-moi, s'il te plaît, le nom de l'autrice.
Alice Rebaud.
Et c'est le premier livre que tu lis de cette autrice ?
Oui, c'est le premier que je lis de cette autrice et je ne sais pas si elle a fait d'autres livres. Je ne suis pas sûre. Peut-être, mais je ne suis pas sûre. Je sais qu'elle intervient dans des podcasts et justement où elle présente son livre. Et en fait, ce qu'elle explique aussi, ce qui est assez intéressant dans l'introduction, c'est qu'il y a très peu de livres sur l'amitié. Parce que justement, c'est un sujet dont on n'a pas très envie que les gens s'intéressent parce qu'on a envie que les gens, du coup, soient plutôt dans un schéma de couple, dans un schéma de famille, etc.
Alors, qui
bah, la société. Finalement.
Nous, on ne peut pas s'en passer de nos potes quand même, Jean-Louis.
Non, et puis ça, justement, oui, c'est vrai, ça m'amène à une réflexion. On a eu quelquefois une bande de potes comme ça, et un d'entre eux se lie d'amour en couple, et c'est arrivé qu'il oublie ses amis, pour différentes raisons, notamment parce que la conjointe ou le conjoint ne veut pas voir les amis, et ça, c'est quelque chose, quelquefois, qui pose problème, qui est dommage, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, par amour pour le conjoint ou la conjointe, laissent tomber complètement l'amitié, des amitiés très longues, très anciennes.
Après, c'est compliqué aussi de pouvoir, hein, le temps n'étant pas extensible, c'est très compliqué de pouvoir... Hein, c'est la question de la temporalité, je pense qu'elle est au cœur de la problématique également.
Oui.
Néanmoins, je ne sais pas, trop d'amis, ça tue quand même un peu l'amitié,
mais
non ?
On n'a pas 36 000 amis.
Hein,
on n'a pas 36 000 amis très chers, mais des fois, l'amitié peut durer plus longtemps que l'amour, surtout à notre époque, et les amitiés qui durent toute la vie.
Ah oui, absolument. Parfois, un ami il voit des amours passer des années durant.
Mais c'est une forme d'amour, hein, l'amitié.
Absolument. Et tu as un extrait à nous lire, Clémentine.
Oui, j'ai un extrait. Et j'avais un autre passage aussi qui m'intéressait, que je trouvais intéressant. C'est qu'en fait, ça explique qu'il y a un moment dans le livre, ça explique que dans l'Antiquité grecque, il y a 8 formes d'amour. Et en fait, c'est quelque chose dont on a totalement oublié. Et donc, je change de passage finalement en plein milieu.
D'accord.
Mais je trouvais que ce passage était intéressant de savoir qu'il y avait 8 formes d'amitié. Et encore une fois, c'est ça que je trouve intéressant dans son récit, c'est qu'elle ramène du coup des sujets un peu historiques, qui au final, des petites anecdotes que je n'aurais pas trouvées comme ça. Et donc, elle disait, dans l'Antiquité grecque, l'expression de l'amour se dit au moins 8 manières différentes. On trouve l'éros, ou l'amour érotique, la philia, ou l'amour affectueux, celui qu'on associe aujourd'hui à notre définition de l'amitié, mais était une forme d'amour à part entière, storgé, ou l'amour familial, et pragma, qui désigne l'amour durable, celui qui a mûri, qu'on peut retrouver dans les couples mariés depuis longtemps ou dans les très longues amitiés, mais aussi luda, l'amour joueur, celui des premiers émois, des flirts ou de la frivolité festive, mania, ou l'amour obsessionnel, philotia, ou l'amour propre, qui peut correspondre à une saine estime de soi, nécessaire pour aimer les autres. Et enfin, agape, l'amour désintéressé, celui de l'altruisme ou de l'amour spirituel.
Quel ami êtes-vous ?
Saint-Martin l'olive et la partie rêve. Et la partie rêve, la dénoyautée. Saint-Martin l'olive et la partie rêve. Et la partie rêve a refusé de la manger. Saint-Martin l'olive et la partie rêve. Et la partie rêve, la dénoyautée. Saint-Martin l'olive et la partie rêve. Et la partie rêve a refusé de la manger. Il a refusé de la manger, de la planter. Il a refusé le rêve de s'en occuper. Il a refusé de la manger, de la planter. Il a refusé le rêve de s'en occuper. Mais dessus la terre, mangeant la lumière, le ver d'une tige s'est pointé. Mais dessus la terre, bravant la poussière, on a vu pousser un olivier. Saint-Martin l'olive et la partie feu, et la partie feu l'a laissé brûler. Saint-Martin l'olive et la partie feu, et la partie feu l'a laissé partir en fumée. Saint-Martin l'olive et la partie feu, et la partie feu l'a laissé brûler. Saint-Martin l'olive et la partie feu, et la partie feu l'a laissé partir en fumée. Il a refusé de le calmer, de l'étouffer. Il a demandé à son feu de tout consumer. Il a refusé de le calmer, de l'étouffer. la terre, mangeant la lumière, le verre d'une tige s'est pointé. Mains dessus la terre, bravant la poussière, on a vu pousser un olivier.
Nous sommes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus et aujourd'hui je suis en excellente compagnie avec Clémentine et Jeannot. Nous sommes en train de parler de nos coups de cœur autour des livres et moi je vais vous parler de cette autrice canadienne. En 2018, elle avait publié En Cabané. Après Un Cabané en 2018, c'était Sauvagine en 2019 et Bivouac en 2021. Cette autrice était une fille qui habitait à Montréal, qui travaillait en tant que traductrice, qui a tout quitté pour aller vivre dans une cabane au milieu d'une forêt perdue. Aujourd'hui, nous sommes avec elle, avec ce livre absolument sublime qui s'appelle « Louve en juillet ». Il faut savoir que Gabrielle Filteau-Chiba, elle est évidemment écrivaine, mais elle est aussi artiste. Elle est maman d'une jeune petite fleur qui est dans ce livre, folle des animaux. Et donc, elle avait une louve, une chienne qui s'appelait Sequoia, qui l'a accompagnée pendant de nombreuses années dans son aventure en plein milieu de la forêt. Un endroit qui, franchement, elle est allée alors chichement vivre et qu'elle s'est tellement investie dans ce lieu qui s'appelle Kamouraska. On a vraiment le sentiment de connaître au travers elle le lieu. C'est assez incroyable. Bon, évidemment, la glace, la neige, tout ce que vous pouvez imaginer. Aussi beaucoup de chaleur aussi par moment, n'est-ce pas? Mais la vie sauvage. Et j'aime cette autrice parce qu'elle a osé faire une œuvre de sa vie ou de sa vie une œuvre. Je ne sais pas très bien comment le dire, avec une écriture délicate, sensible, sincère et qui nous zappe comme ça, tu vois. Tu ne peux pas la lâcher. Elle a fait des livres qui ne sont pas forcément tous très, très longs. Celui-ci, par exemple, il est tout petit. Moins de 100 pages, je crois. Attendez, hop, je vais vous dire 98, 99 pages. Je vais vous lire un extrait. C'est le chapitre 10 qui s'appelle Valmorin. Il va faire chaud aujourd'hui, que je me dis, en glissant une casquette pâle dans le sac de ma fille, puis des glaçons dans l'eau de sa gourde. Nous roulons, comme tous les matins, sur la 117 direction nord, et comme d'habitude, j'arrime ma vitesse à l'heure du tableau de bord. Nous avons beaucoup de temps devant nous, alors nous avançons lentement, et je savoure l'instant, ma bulle avec elle. Fleur me raconte ses amitiés, ses bricolages en cours, pourquoi Jack est son cheval préféré au camp équestre, etc. Je m'arrête au feu rouge, me tourne vers elle, fière, sereine, tout oui. Sur la banquette arrière, Sequoia halète, malgré la ventilation réglée au maximum. La gueule ouverte, on dirait qu'elle a souri. Le feu est rouge encore. Je ne vois pas le point à l'horizon qui fuse vers nous. Une berline noire arrive à l'intersection sans freiner. Son chauffeur, endormi au volant, heurte notre voiture à toute allure. Bam! J'ai une absence, je vois nos visages, nos doigts, ton museau, tes pattes se rapprocher de la vitre, Sequoia traverser l'habitacle, flotter, survoler les sièges comme les destriers nocturnes des contes. Je sens les ceintures bloquées, mon cou, mon dos craqué, nos sens fouetter le vide puis percuter les sièges en une fraction de seconde. Tu vois, elle passe d'un truc qui est à peu près idyllique à un moment qui va devenir tragique. Et elle a fait ça avec une douceur, avec une façon. Et tout ce qu'elle raconte, c'est un peu de cette trompe-là. Et sa vie n'est pas simple, mais c'est vachement chouette.
Donc on va lire ça parce que visiblement, cette chienne louve là.
C'est quoi,
un choc, l'accident là.
Ouais. Ah oui, ça y est.
Qu'est-ce qui va se passer pour
qu'est-ce
elle,
qui va se passer?
On va lire.
Ouais.
C'est un livre de Noël un peu.
J'espère que ce n'est pas trop dramatique pour Noël. Mais
oui, mais la pourrait. Saison, tout ça, je trouve qu'il y a des livres où justement ça s'y prête bien selon ta saison.
Louve en juillet, c'est bien pour Noël.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Et oui, c'est la fin de l'émission et c'était trop chouette de partager ce moment avec vous. On remet ça bientôt ?
Avec plaisir.
À bientôt.
Trop bien, merci. Et à vous également, très bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Bisous, bye.